Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va tout de suite commencer avec cette question. Les Français ont-ils perdu le goût du travail? Seulement un salarié sur cinq estime aujourd'hui que le travail est très important. C'était 60% en 1990. Et pour le médecin des GG, Jérôme Marty, les Français sont inquiets et fatigués, ce qui les pousse à se préoccuper davantage de leur vie perso aux dépens du travail.
On n'a jamais vu autant de personnes fatiguées, inquiètes, qui subissent mal la violence du quotidien et qui, de par l'incertitude qu'ils ont par rapport à leur avenir, ne misent pas sur la valeur travail.
Voilà.
À une époque, tu misais sur la valeur travail parce que tu avais une envie de développement, tu avais une envie de meilleur. Mmh. Et aujourd'hui, l'inquiétude fait que tu ne mises plus là-dessus. Et puis à côté de ça, tu as une fatigue générale, probablement en lien avec la Covid, qui fait que les gens sont presque passés à autre chose, quoi. Ils s'engagent plus, ils profitent de la vie, ils cherchent à s'occuper d'eux-mêmes avant de s'occuper des autres. Or, quand tu travailles, tu t'occupes aussi des autres, quoi.
Les Français ont-ils perdu le goût du travail, Fred Hermel?
C'est intéressant ce que dit mon ami le docteur Marty, parce que lui, il a une vision médicale des choses. Il voit passer des gens. Donc oui. Et les effets du Covid, on le verra. Il y a des gens qui sont fatigués depuis le Covid, quoi. Vraiment, enfin, c'est... Et ce qu'il explique est intéressant. Après, le goût du travail, c'est vrai que ce week-end, on a entendu, notamment dans les manifestations de jeunes, là, contre la réforme de retraite, des gens de 20 ans qui veulent travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine.
Qui veulent surtout donner du sens à leur vie, quoi. Oui. Alors, on parle tous de cet étudiant en philo qui a été interviewé et qui n'a pas été malin dans son interview, mais.
Oui, mais donner du sens à sa vie. Donner du sens à sa vie, moi, je pense que le travail, justement, te permet de grandir et donner un sens à ta vie.
C'est beau de construire.
Oui, mais tu sais, cette parabole d'une personne qui est en train de casser des pierres et on lui demande qu'est-ce que tu fais, il dit je construis des cathédrales. Oui, c'est vrai. Enfin, tout ça a un rôle. Moi, je me souviens quand je suis allé au Japon, ça paraît loin, mais c'est vrai.
Oui,
quand je suis allé au Japon, j'étais surpris parce que la personne qui vous ouvre la porte à l'hôtel se sent aussi importante que le directeur de l'hôtel. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être valoriser les métiers qu'on méprise, notamment les métiers manuels, en donnant de l'importance aux gens. Franchement, si on arrêtait de traiter les gens qui ont des boulot moins rémunéré, moins visible. Si on arrêtait de les traiter comme des gens inférieurs, peut-être que les gens auraient beaucoup plus de goût au travail.
Laurent Mandrieux, vous avez l'impression qu'il y a une révolution qui s'est opérée finalement depuis le Covid en ce qui concerne le travail?
Je pense que le Covid a un peu bon dos, c'est-à-dire qu'effectivement il y a certaines professions comme dans la restauration, comme dans l'hôpital, où voilà effectivement il y a eu un épuisement, il y a eu un sentiment qu'on...
Ils n'ont pas trop bossé pendant le Covid. Hein.
Non, mais en tout cas, enfin bref, il y a des professions où effectivement il y a un effet Covid. Après, je pense qu'il y a un effet générationnel qui est bien antérieur à la pandémie et que peut-être la pandémie a permis de mettre en lumière. Mais je pense qu'effectivement il y a cette idée que le travail est un boulet dont il faut s'affranchir à toute force. Et moi, je suis quand même très fasciné par ces gens qui disent oui, mais alors je travaille le moins possible pour donner du sens à ma vie. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font généralement pour donner du sens à ma vie? Enfin, le temps qu'ils libèrent, c'est du temps consacré au loisir de manière pas toujours extraordinairement enrichissante, ni spirituellement, ni intellectuellement, quoi. Donc, ça me paraît un peu, un peu facile. Et surtout, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre parce que j'appartiens à une génération où on avait cette idée que le travail, c'était effectivement ce qui permet de s'accomplir et de développer ses potentialités.
Et de sortir de son milieu social.
Après, moi j'ai la chance de faire un métier passionnant et je comprends que c'est pas le cas de tout le monde. Mais malgré tout, effectivement, il y avait aussi, enfin, moi j'en reste toujours à Peggy et son rempailleur de chaise qui est tout fier d'avoir bien rempaillé sa chaise et qui en tire une fierté incroyable. Mmh. Et ça, c'est un état d'esprit qui malheureusement n'existe plus.
Oui, mais ce qui a changé avec le Covid, c'est que tout le monde s'est retrouvé avec sa famille et s'est dit, mince, et en fait, c'est pas que les loisirs.
Vous oubliez ça. L'histoire des restos, c'est que les gens se sont rendus compte que c'était quand même sympa d'être chez soi le soir avant 23h, avant minuit,
de voir. Profiter de ses gosses.
Profiter de ses enfants. Quand vous entendez en ce moment les étudiants en médecine, c'est vrai qu'ils vous disent tous, moi il est hors de question, je fasse comme les médecins il y a 30 ans, à rentrer à 21h, pas voir mes enfants, bosser. On peut aussi les comprendre, ce qui ne veut pas dire que le travail est vu comme un boulet. Je pense que quand on fait des études de médecine, qu'on se tape pendant 10 ans, etc.
Il y a une vocation quand même, non?
Il y a une vocation, puis il y a du boulot.
Ouais, bien sûr.
C'est compliqué, c'est dur, etc. En revanche, je pense juste qu'il y a un petit décalage de l'ordre des priorités qui est pas forcément une mauvaise chose. Et quand on dit que les jeunes d'aujourd'hui sont plus dans le loisir, non, moi je trouve que c'est autre chose. Il y a une autre manière de vouloir être heureux par le travail, ça passe aussi plus par la création. Il y a un peu plus de créativité. Quand on dit que les gens s'investissent plus pour les autres, docteur Marty, je suis pas d'accord. Moi, je vois dans les associations, dans le milieu sportif, on voit énormément de gamins, énormément de gens investis.
C'est ça.
Moi, mes enfants sont dans 3 clubs sportifs. J'hallucine du nombre de gamins qui bénévolement, gamins qui ont 20 ans, viennent s'occuper d'eux. Et juste une dernière chose, moi, quand j'avais 18 ans, ans, je rêvais de pas en foutre une et d'être avec mes copains, de jouer de la guitare et de draguer des filles. Et oui, mais ça passe.
En moi, j'ai envie de bosser.
Non, mais quand j'ai vu ce jeune mec, quand j'ai vu ce jeune mec dire sa connerie là sur je sais plus quelle chaîne, dire faut bosser 4 heures par jour. Bon, les gens lui tombaient dessus comme si c'était un prix Nobel.
C'était un petit bourgeois tête à claque.
Oui, bon. Oui, bah, voilà,
quand même. Il y en avait aussi à ton époque. Hein,
faut que jeunesse se passe.
Mais moi, j'avais. Mais tu sais, j'avais envie de réussir.
Il représente pas la jeunesse.
Non, moi, j'avais envie de bosser. J'avais envie de bosser. J'avais envie de réussir pour pouvoir avoir autant d'argent que ces gens-là et avoir accès à des choses que eux avaient naturellement et moi pas.
Mais chacun a des désirs après qui sont différents. Aujourd'hui, le désir des gens, c'est aussi de profiter de la famille.
Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans la déclaration de ce jeune homme, qui est quand même représentatif de quelque chose, d'une partie de la jeunesse en tout cas, c'est qu'il dit je ne sais pas encore ce que je vais faire, à quel métier je me destine, mais je sais que je ne vais pas m'accomplir par mon travail. Je trouve ça aberrant.
Comme le GSTN dans les années 70 avec le mouvement punk, etc. Ah ouais. C'était nos futurs, etc.
Mais non, mais lui, c'est pas un punk,
c'était le rejet de la société.
Ah oui,
mais il n'y avait
pas de
ça.
C'est pas
l'abri
qui change d'avis.
C'est pas la majorité du genre. C'est pas la majorité du genre.
Comme les poissons volants.
Et juste dans le rapport au travail, moi, je trouve qu'il y a un peu moins de présentéisme qui sert à rien, qui est quand même très français. Vous savez, ici, on prend des pauses déjeuner qui 2h30,
c'est pas nous. Hein.
Eh ben non.
Mais c'est génial.
Eh ben je trouve qu'on revient un peu là-dessus, c'est-à-dire que on bouffe un peu plus un sandwich devant l'ordi à midi, mais on rentre à 17h30 ou 18h.
Je suis pas d'accord. Parce que ça, c'est le modèle anglo-saxon. Et justement,
c'est
le modèle français.
C'est chez toi tôt.
Mais non, mais où
tu t'occupes de tes enfants,
tu manges avec tes collègues,
tu fais les devoirs avec les enfants.
Il a pas d'enfants, Fred.
Mais même avant, les gens qui avaient des enfants, je suis désolé. Mais excusez-moi, le monde, c'est pas que les enfants. Je veux dire, c'est bien de connaître les autres aussi.
Oui, d'accord.
Je pense que si tu penses que si le monde, c'est que ta famille, tes enfants, je suis désolé, moi, les déjeuners avec collègues, etc., c'est important. Et la disparition de ces moments-là sont très mauvais pour la société.
Excusez-moi, moi, je ne déjeune plus, ça me manque pas. En revanche, je suis très
content. Ça me la société.
Mais j'ai des collègues très sympas, c'est pas le problème. On ne peut plus déjeuner ici, donc le problème est réglé. Des gens qui préfèrent, excusez-moi, qui ont des collègues très sympas, mais qui préfèrent manger sur le pouce rapido avec les collègues.
C'est pas bon pour la santé.
Et d'accord, et profiter de leurs enfants le soir, leur faire bien à manger, les emmener au sport, etc., et avoir des discussions avec eux. Voilà, c'est tout.
Et voir
chacun
faire
a le droit de choisir ce qu'il veut.
Chacun le droit, mais il ne faut pas imposer à tous. C'est-à-dire le côté où on n'a plus le temps de manger le midi. Ça, non, parce que ça fait. J'aime pas
cette
chose-là.
Mais cette émission, on travaille de midi à 15h.
Mais pas nous, mais. La plupart des gens ne travaillent pas entre midi et 15h. Voilà.
Ils nous écoutent.
Quand même nous écouter.
Ils mangent un petit sandwich
sur le pouce.
Et d'ailleurs, bon appétit à tous. J'en profite pour saluer tous nos auditeurs et nos téléspectateurs qui sont, je le rappelle, de plus en plus nombreux.
C'est vrai.
Nous allons passer à un extrait d'Apolline Matin. Maintenant, ce matin, la fin justifie-t-elle les moyens? Un an pile après la sortie du livre enquête Les Fossoyeurs sur les maltraitances au sein des EHPAD, rien ne semble avoir bougé malgré les lettres et plaintes des familles. Alors l'avocate des plaignants, Sarah Salman, qui était ce matin chez Apolline, a pris une décision radicale. Écoutez.
Moi, qu'est-ce que je fais? Je vois que ça n'avance pas. Les familles écrivent, les familles font des recommandés, des mails, on a des photos, on a tout. Eh bien, j'ai pris une décision radicale. Je me suis dit, on va installer des caméras discrètes, donc je ne vais pas dire le procédé en direct, pour avoir une preuve. Et j'assumerai personnellement les conséquences si Orpea avait l'outrecuidance de faire une action pour atteinte à la vie privée. Pourquoi? Parce que la jurisprudence a démontré pour des faits analogues et similaires que quand c'était l'ultime recours, eh bien, les personnes étaient déboutées de l'action pour atteinte à la vie privée.
Benjamin Muller, mettre des caméras, et ça a déjà été évoqué dans cette émission, dans les chambres des résidents en EHPAD, est-ce que c'est une bonne idée pour vous?
Bien sûr que c'est une bonne idée. Vous imaginez, vous, de vivre avec l'angoisse d'avoir un parent, un grand-parent qui se fait violenter. La plupart des affaires récentes, mis à part le livre, qui ont été révélées, c'est par de ce genre de procédé, que ce soit par le son ou par les vidéos. On imagine le traumatisme pour les gens. Alors, c'est peut-être pas moral, j'en sais rien. Je sais pas, moi, il y a quelques années, j'étais très anti-caméra, vive les libertés individuelles, etc. Puis je me suis fait cambrioler une fois, je suis complètement revenu, j'ai foutu des caméras partout chez moi. Et donc là, et maintenant, je veux dire, il y a une mouche qui entre chez moi, je reçois 12 pushs sur mon téléphone. Et ben là, je rigole parce que c'est pas très grave,
mais concernant.
mais pour des affaires comme ça, moi, je trouve que la question ne devrait même pas se poser. Évidemment, en tout cas, bravo à elle, elle a raison. Et puis quand vous allez bosser, vous savez qu'il y a des caméras, il faut pas forcément les cacher. Moi, je trouve Orpea aurait peut-être tout intérêt à dire, ok, ceux qui veulent mettez des caméras. Les gens qui bossent après, ils feront plus ça. Si tu sais que t'es filmé, c'est comme quand quand tu mets, c'est comme quand t'as une nounou qui vient de s'occuper de ton enfant. Si tu la préviens,
je mettrai une caméra.
Oui, mais alors Estelle, si tu lui dis, je vous préviens, dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain, j'ai des caméras. C'est pas pour vous, c'est en règle générale. Sachez-le juste. T'es tranquille, elle fera rien. Elle
mettra nounou, tu l'as choisi.
Oui, mais elle lui mettra jamais une petite tape sur la main de peur que tu la vois. T'auras même pas besoin de regarder.
Moi, je considère qu'il faut faire confiance. Alors là, c'est un peu différent, car comme vient de dire Fred, une nounou, tu l'as choisi, donc tu as confiance. Et là, tu n'as pas choisi, mais. Excusez-moi, mais les résidents en EHPAD, il leur reste plus grand-chose. Il y a aussi un truc qui leur reste, c'est la liberté quand même de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur chambre. Là, vous allez en plus, je veux dire, les mettre une caméra, parce que la caméra, elle ne filme pas que les soignants. Elle filme aussi la personne qui est en situation de dépendance. Et je suis pas du tout sûre que ces personnes, elles aient envie qu'on les voit H24 dans cet état-là, dans cet EHPAD. Elles n'ont pour la plupart pas choisi d'être là-bas.
Ça ne peut se faire qu'avec leur consentement.
Oui, voilà, qu'avec leur consentement.
Si on n'est pas dans le cadre du consentement, effectivement, on est dans le cadre de l'intrusion dans la vie privée. Donc c'est pas défendable. Après, je suis pas certain que le problème soit là, parce qu'il me semble que les dérives de ces EHPAD ont déjà été largement documentées. Donc, s'il n'y a pas de réponse qui est apportée, c'est que ça bloque à un autre niveau. C'est pas la réalité qui a besoin d'être documentée. C'est simplement qu'on a affaire à un groupe qui apparemment se comporte de manière assez cynique.
C'est pas qu'un seul groupe.
Voilà, des groupes qui se comportent de manière cynique, mais je suis pas sûr que le fait de documenter encore les abus qui peut y avoir suffise à faire bouger les choses.
Fred Hermel.
Oui, Sarah Salman, que je connais bien, fait un gros coup là, parce qu'elle sent que ça bouge pas. Donc c'est aussi un coup médiatique,
bien sûr,
histoire de d'alerter un peu les pouvoirs publics et de faire bouger les choses. Et parfois, oui,
il faut
un avocat
faire
doit
bouger les choses.
Ben oui, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Ça fait un an, parce que elle était l'avocate des premières victimes d'Orpea. Et donc, le fait de faire ça, de créer cet événement, c'est aussi pour un constat, malheureusement, que depuis un an, rien ne se passe et que c'est dans un pays comme la France, quand même. Enfin, on est la France, quand même. On est quand même encore la 7e puissance mondiale. Qu'on maltraite nos vieux comme ça, c'est tout simplement insupportable. Donc, bravo à elle de faire ça.
Les GG ce matin, le PS a-t-il encore un avenir? Vendredi, les militants socialistes ont élu leur nouveau premier secrétaire, Olivier Faure. Une victoire contestée par son opposant, puis réaffirmée hier. Bref, c'est la crise au PS, comme d'habitude. Mais pour les GG, Jean-Baptiste Gébari et Zora Bitton, plus personne ne s'y intéresse. C'est un parti qui n'en finit pas de mourir.
C'était les éléphants il y a quelque temps, maintenant c'est les apparatchiks. C'est-à-dire qu'on essaie de conserver le peu de territoire qui nous reste.
Est-ce que vous savez combien il y a eu de votants?
C'est plus rien, c'est 22 000 je crois.
Il y a eu 22 000 votants.
22 000 votants,
c'est probablement ce que fait... moi par exemple, que j'ai été élu député dans le département de Vienne, j'ai eu 26 000 voix. Mmh. Donc c'est même pas ce que fait un député dans ces circonscriptions. C'est-à-dire le niveau de délabrement... du parti, ce parti est, c'est mort.
Et je veux dire, surtout, c'est le spectacle qu'il donne à voir.
Il ne finit pas de mourir, en fait.
Le Parti Socialiste a-t-il encore un avenir, Laurent Dandrieu?
Non, ça ne me paraît pas promis un bel avenir, comme dirait OSS 117. Mais non,
c'est
en plus,
très belle référence.
Ben oui, je suis pas critique de cinéma pour rien. Non, mais surtout qu'en plus, on ne voit pas bien quels sont les enjeux idéologique qui pourrait y avoir derrière cette querelle entre les deux prétendants qui se disputent la victoire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut être aligné sur Mélenchon et l'autre, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Voilà, c'est un parti où plus personne ne sait ce qu'il pense, en fait. C'est surtout ça, le truc. Et que du coup, c'est vrai que
il serait bien de changer de nom.
C'est une vaguelette dans un verre d'eau, quoi.
Mais là, il faut faire autre chose, parce que là, le PS, c'est horrible, ça n'en finit plus.
De toute façon, quand vous présentez Anne Hidalgo comme candidate à la présidentielle, c'est que vous êtes déjà en état de mort clinique.
Ouais. Bah, c'est terrible. Ouais. Moi, j'ai voté pour la première fois en 1988.
Ah oui.
J'ai voté François Mitterrand. C'était un espoir merveilleux. Enfin, c'est tout. Enfin, moi, le PS, j'ai souvent voté pour eux et tout. Et de voir ce parti en être là, moi, franchement, ça me désole. Ça me désole. Mais il y a eu un tournant. Le jour où le PS a décidé d'oublier le social pour le sociétal, le PS a dit que son électorat n'était plus le monde ouvrier et paysan, que c'était plus les Français d'en bas, que c'était la diversité, etc. Le jour, alors ça pouvait être, la diversité pouvait être un électorat aussi, mais on dit voilà, ils ont fait un pari électoral. C'est-à-dire qu'ils ont oublié leurs idées. C'est-à-dire le PS s'est trahi et il a trahi ses électeurs. Et ses électeurs, maintenant, la plupart, ils sont chez Marine Le Pen.
Il y a aussi François Hollande qui fait un choix de la social-démocratie quand il est élu président. Il ne faut pas oublier le léger facteur Emmanuel Macron qui fait quand même une campagne merveilleuse en disant ni de gauche ni de droite. Mmh. Et c'est à ce moment-là aussi où c'est lui qui contribue quand même à tuer ce qu'était le Parti Socialiste. Il ne faudrait pas l'oublier parce que qui décide de plus se positionner sur le modèle ouvrier mais être plus sur cette social-démocratie, après tout, pourquoi pas? Il y a des pays autour de nous qui ont pu le faire. Mais il y a eu Macron. Et ils m'apprennent qu'il y a quand même siphonné toute une part de leur positionnement. Oui. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, on parlait beaucoup de la droite la plus bête du monde. C'est bien. Là, maintenant, c'est plus la droite. Hein. Qui est la plus bête du monde, c'est
la gauche a disparu. En France, la gauche a disparu. Il y a aujourd'hui une extrême gauche, mais il n'y a plus de gauche. Et parce que, en fait,
par exemple, Fabien Roussel, il s'est recentré aussi.
Ouais. Oui, mais
parti communiste
lui, c'est un
Daniel
Mohican. Daniel des Mohicans. Mais en fait,
il y avait un enjeu quand même à cette élection.
Vous voyez Olivier Dussopt est fort. Dussopt est fort. Dussopt aujourd'hui, ils viennent du même parti. Hein. Dussopt, il fait la réforme des retraites avec Macron et Olivier Faure, il vote contre. Le PS a explosé. Il y a ceux qui sont partis chez Mélenchon et ceux qui sont partis chez Macron.
C'est pour ça qu'il y avait un enjeu quand même, moi je trouve.
Jean-Mulier.
C'était est-ce que le PS reste collé à Mélenchon ou pas? Donc ils vont rester collés à Mélenchon, donc ils sont condamnés à ne pas exister parce que le parti Mélenchon sera toujours plus.
Oui, mais c'est vrai que le projet alternatif à Olivier Faure, c'était juste ne plus être collé à Mélenchon. Ouais. Mais pour faire quoi en revanche? Ça on l'a pas entendu.
Après celui qui portait ce projet, c'est le maire de Rouen qui fait déboulonner le statut qui est en écriture inclusive. Donc franchement c'est pas le PS pour lequel je votais. Hein.